Je m'entretiens maintenant avec Michel Bond, le directeur des ressources humaines aux communications et affaires juridiques. Voyons donc du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux comment on voit ce tableau dont on parle évidemment depuis deux jours. Là, ça a eu un effet domino. Et le syndicat du côté évidemment de la région, on parle du syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes qui considère que la réforme Barrette, eh bien, a de mauvais effets, justement, des effets néfastes sur le travail des infirmières. Et aussi, on parle de mauvaise gestion du CIS. Alors, parlons-en avec M. Bond. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, quand on parle de cette situation là, au niveau des infirmières, climat de travail difficile, qualité de vie qui se détériore, on parle évidemment d'épuisement des infirmières ou des infirmières auxiliaires. Vous êtes conscient de la situation, j'imagine?
Je pense que dans un premier temps, ce qui est important de souligner, c'est vraiment l'engagement des infirmières et du personnel infirmier, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, préposés, qui travaillent pour l'organisation et qui rendent des services importants et primordiaux à la population. Donc, on est conscient également de la situation qui a, des situations au niveau du temps supplémentaire ou au niveau des... de la disponibilité du personnel qui peuvent avoir une incidence sur les personnes, mais ce qu'on veut souligner, puis ce qui est important de souligner, c'est l'engagement puis le professionnalisme que les gens démontrent au quotidien.
Donc, vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a justement beaucoup de temps supplémentaire et qu'il peut y avoir de l'épuisement, là, donc, dans le secteur, là?
Il y a du temps supplémentaire qui se fait et il y a également des situations comme déploré là, depuis quelques jours là, au niveau du temps supplémentaire obligatoire, on doit reconnaître que oui, ça se présente et on travaille au quotidien avec les équipes, avec les gestionnaires, avec les employés pour essayer de le limiter, l'éviter le plus possible pour justement que la qualité de travail, la qualité de vie des employés soit la meilleure possible, là, particulièrement au niveau des infirmières là, comme on en parlait. Et on est dans une démarche actuellement, justement, avec l'ensemble des syndicats de la région, de l'organisation, c'est-à-dire le syndicat SIEC, les syndicats CSN et APTS, et les membres de la direction pour voir, justement, comment qu'on peut travailler ensemble pour améliorer, justement, le bien-être, la sécurité et la mobilisation là, des personnes là, qui travaillent pour le CIS de la Gaspésie.
OK. On remet en question, évidemment, la loi 10, la réforme Barrette. Quelques questions. Est-ce qu'on a plus d'infirmières en ce moment-ci qu'avant cette loi-là? Est-ce qu'il y a eu des démissions, des coupures? On dit qu'il y a eu des coupures de postes. C'est quoi le tableau en ce moment?
Écoutez, nous, actuellement, on a 728 infirmières là, dans la région. Là, comparativement, c'est une quinzaine de plus qu'avant la mise en place là, du CIS de la Gaspésie.
Est-ce que la question pour aider justement ce temps supplémentaire, je ne sais pas si est-ce qu'on a des chiffres sur le temps supplémentaire en pourcentage? Qu'est-ce qui se fait là par rapport au temps supplémentaire?
Oui, j'étais à 4,08 là.
Quand vous dites 4,08, c'est quoi?
Non, mais il y a du temps supplémentaire qui se fait. Il y a eu une augmentation du temps supplémentaire. Il y a une corrélation également à faire entre la situation au niveau de l'absence du travail ou de la présence au travail et le temps supplémentaire. Il y a une corrélation qu'il faut faire entre les deux. Donc, si on a plus d'absence, nécessairement, on risque d'avoir plus de temps supplémentaire. On a également une augmentation du nombre de personnes en congé parental ou en congé maternité. On a également, comme je le disais, des congés pour études. Pour les différents types de congés, ça peut engendrer justement du temps supplémentaire.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'infirmières en maladie aussi? C'est quoi les chiffres là-dessus?
Bien, comme je vous le disais, on a une augmentation à ce niveau-là, au niveau des personnes en invalidité, des infirmières en invalidité là, au sein de l'organisation. C'est pas une augmentation catastrophique, mais on a une légère augmentation à ce niveau-là, au niveau des infirmières.
De combien?
J'ai pas le chiffre exact là, pour vous donner le nombre de personnes, mais au niveau des infirmières ou infirmières auxiliaires, là, notre ratio a augmenté là, d'à peu près 2% au niveau des heures en assurance salaire.
Est-ce que c'est beaucoup d'heures? Est-ce que ça se chiffre, ça? Quand vous dites deux.
Oui, ça se chiffre. On est en mesure de sortir cette donnée-là pour être capable de vous de la donner. Mais l'important qu'il faut comprendre, c'est que oui, on a une augmentation, mais actuellement, comme je le disais, on travaille conjointement avec les partenaires de l'organisation, avec les différents syndicats, pour être en mesure d'améliorer cette situation-là. Mais c'est une situation également qui se vit dans l'ensemble de la province.
Bon, on parle d'embauche, là. Pour régler le problème, est-ce que c'est donc embaucher des gens à temps complet? On éviterait qu'il y ait du surtemps aussi, du temps supplémentaire?
Mais tout ne passe pas uniquement par l'embauche. L'embauche est certainement un élément important, mais c'est comment également augmenter la disponibilité des gens qui travaillent pour nous. Une personne qui est embauchée au CIS de la Gaspésie, une infirmière, va se faire offrir un temps complet ou un poste à temps partiel, là, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, là, un 7-14. Et les gens, par choix, pour différentes raisons, parce qu'ils veulent poursuivre des études, parce qu'ils veulent fonder une famille ou pour des raisons personnelles, vont décider d'avoir soit un poste à temps partiel ou d'accepter un poste à temps complet dans l'organisation. Pour la Gaspésie, on a 64% de nos postes infirmières qui sont à temps complet. Donc, à ce niveau-là, on est comment dire, dans une bonne organisation là, c'est au niveau de ces données pour le Québec. Mais on a travaillé en novembre dernier avec le syndicat SIEC, là, on convenait d'une entente pour rehausser plus de 48 postes à l'intérieur de l'organisation et pouvoir octroyer également plus de postes à temps complet. Malheureusement, on a eu de la difficulté à tous les combler. Il y a des postes qui n'ont pas trouvé preneur là, à travers la région au niveau des postes à temps complet.
Infirmière auxiliaire, on a combien de postes à temps complet?
Au niveau des infirmières auxiliaires, ça, c'est plus difficile au niveau du nombre de postes à temps complet. On est à 29% de nos postes qui sont à temps complet pour la région. Et on doit, justement, lorsque les négociations locales là, avec le syndicat SIEC vont démarrer, bien, on va être en mesure de discuter avec eux des façons de faire, comment augmenter, justement, le nombre de détenteurs de postes à temps complet au niveau des infirmières auxiliaires pour la région. Donc ça, c'est un enjeu, c'est une discussion qu'on va avoir là, avec le syndicat SIEC dans les prochaines semaines pour être en mesure d'augmenter ce chiffre-là. Là. On voudrait porter le nombre de temps complet à 50%.
Dites-moi, on entendait Philippe Couillard dire justement hier là, qu'il y avait de l'argent pour justement embaucher pour des postes à temps complet et qu'il n'avait pas nécessairement d'application pour ces postes-là. Qu'en est-il chez nous? Combien annuellement est-ce que vous recrutez un nombre de postes X? Parlez-nous un peu de ça. Est-ce qu'à chaque année on recrute, c'est combien et combien on réussit à combler de postes?
Nous, annuellement, là, depuis les deux dernières années, c'est entre 50 et 60 infirmières là, qu'on recrute pour l'organisation. Et comme je le disais, toute infirmière qui arrive dans l'organisation obtient un poste à son entrée en fonction. Et ce poste-là peut être soit à temps complet ou à temps partiel en fonction de ses intentions. Mais toute personne qui arrive dans l'organisation obtient un poste à son arrivée.
Vous dites on recrute une cinquantaine par année là, depuis les deux dernières années, mais est-ce qu'on les a comblés, ces emplois-là, ou on ne réussit pas à le faire?
Mais il y a des postes qui demeurent vacants. Malgré un affichage interne, il y a des postes qui demeurent vacants. Et on considère qu'au niveau du recrutement, on a quand même une bonne performance. On fait des bonnes choses là, pour la région.
Donc, donc ce qu'on comprend, c'est qu'on n'a pas suffisamment en ce moment quand même de personnel pour répondre à tous les postes parce qu'il y en a encore qui sont vacants, donc pour faire le travail, là. Est-ce qu'il peut occasionner...
On peut avoir un poste ou des postes dans certains secteurs qui peuvent être vacants. Si on a besoin, ces postes-là vont être comblés par les équipes de remplacement, les équipes volantes, ainsi de suite. Mais dans l'organisation, on doit combler les départs à la retraite, on doit combler les absences pour maladie, on doit combler également les congés parentaux, les congés de maternité. Donc, c'est sûr que ça nous prend des équipes pour combler l'ensemble de ces remplacements-là. Ce qu'on dit, on a les équipes pour le faire, on souhaiterait en avoir plus, mais pour l'instant, on on considère qu'on a, on répond à la demande, sauf que ça crée, il y a quand même une situation où il va y avoir du temps supplémentaire qui va se créer. Prenons l'exemple d'une infirmière d'urgence qui s'absente, je veux dire, une soirée, là. Ben, ça ne veut pas dire que n'importe quelle infirmière dans l'établissement est en mesure d'aller combler ce besoin-là dans une expertise très très pointue et qui a le profil pour le faire. C'est la même chose pour d'autres spécialités. Donc, c'est pas parce qu'il y a une absence dans un domaine très, très, très spécifique que nécessairement une autre personne à côté peut venir combler ce besoin-là.
Donc, ça peut...
C'est ça qui, souvent, va engendrer là, des situations de temps supplémentaire ou temps supplémentaire obligatoire.
Oui, ou de problématiques et de pression sur les employés, là, parce que là, il y a une personne qui manque, puis on ne peut pas la remplacer. Ça arrive.
Oui, ça va arriver, mais on va trouver, on est toujours en recherche de solutions pour le faire, mais ce que je vous dis, c'est que
oui.
Des remplacements peuvent être... il faut prendre en compte l'expertise des gens et la capacité des personnes pour effectuer ces remplacements-là.
Est-ce que c'est vrai que du côté des postes à temps plein, il y a du personnel infirmier qui ne trouve pas ça attrayant d'aller chercher ces postes-là parce qu'il y a des obligations qu'on n'a pas à temps partiel, entre autres le temps supplémentaire? Est-ce que dans ce cas d'une personne à temps plein, elle a l'obligation d'accepter de faire du temps supplémentaire? Si on lui demande lorsqu'elle travaille, est-ce qu'il y a des différences? Parce qu'on semblait dire ça là, depuis quelques jours, là.
Bien, j'ai resté surpris un peu là, de cette explication-là parce qu'il n'y a pas de distinction vraiment pour une personne qui est à temps partiel ou une personne à temps complet. Lorsqu'il y a justement ce qu'on appelle les obligations de temps supplémentaire ou lorsqu'on offre du temps supplémentaire là, aux gens qui sont disposés ou disponibles pour en faire. À ce niveau-là, une personne à temps partiel ou une personne à temps complet vont être appelées, vont être demandées. Mais toutefois, il faut comprendre qu'une personne à temps complet, il y a plus de quart de travail qu'elle va effectuer là, dans une même période de temps. Donc, peut-être va être plus sollicitée par rapport à ça. Tandis qu'une personne à temps partiel bien, va déterminer ou va décider du nombre de quart qu'elle va accepter ou qu'elle va faire au niveau d'une période donnée de travail. Là.
Donc, ce qu'on peut voir,
c'est des gens qui vont prendre, oui, des postes à temps partiel et qui vont faire un temps supplémentaire ou deux temps supplémentaires ou même trois temps supplémentaires pendant leur période de travail. Et ça va équivaloir là, au temps travaillé ou d'une personne à temps complet. Actuellement, il n'y a pas de distinction, sauf, comme je vous le disais, qu'une personne à temps complet, en étant plus présente souvent qu'une infirmière à temps partiel, ben par le fait même, le risque d'être plus sollicité.
Au niveau des ratios, M. Bond, dites-moi, quels sont les ratios? On voit circuler, là, entre autres, que 70 patients en CHSLD par infirmière, ce serait une norme correcte selon le ministère de la Santé. Est-ce que c'est le cas?
C'est un chiffre qui peut tenir la route. Si on se dit au Québec, là, dans notre région, oui, ça va, dans nos CHSLD, le soir et la nuit, on va avoir là, à peu près ce genre de ratio.
Et le syndicat ici nous dit qu'il y a des dépassements, entre autres à Mgr Ross, on serait tout près de 90 patients infirmières, Maria un peu la même chose. Donc, il y a un manque là, à ce niveau-là, au niveau du personnel d'infirmières auxiliaires?
Non, moi, ce que je ne parlerai pas de manque, comme je vous ai dit tout à l'heure. On parle d'un ajustement des équipes en conséquence. Donc, l'infirmière qui est en poste va avoir une équipe d'infirmières auxiliaires, une équipe de préposés qui vont être présents pour être capables de combler là, les besoins ou répondre aux besoins de la clientèle. Donc, à ce niveau-là, on doit ajuster les équipes en conséquence de cette situation-là. Mais le nombre d'heures par jour présence au niveau des centres d'hébergement, là, ça a augmenté là, dans les dernières années. Il y a plus d'heures qui se font, mais les heures se font surtout plus par des infirmières auxiliaires ou des préposés aux bénéficiaires.
Michel Bond, donc, merci bien d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Directeur des ressources humaines en communication et affaires juridiques pour le CIS, merci.
Merci, au revoir.